de tirer à boulets rouges sur le texte de loi. Elle estime en effet que le combat politique n'est pas terminé. Le recours au Conseil constitutionnel l'y aidera. 16h15, vote solennel, projet validé. Et la majorité se félicitera d'avoir tenu bon et communiquera encore sur l'irresponsabilité économique des grévistes. Les retraites des Français seront réformées. Et pendant ce temps-là, les parlementaires réfléchissent à leur propre système de retraite. Une grande réforme, promet Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée nationale. Il propose la suppression de la double cotisation, un an de mandat, deux annuités, rejoignant ainsi la position de Jean-Marc Ayrault, le chef de file des députés PS. Seulement voilà, chez les socialistes, comme dans les rangs de l'UMP, beaucoup s'y opposent. Mais si la proposition est acceptée, peut-être que ces sceptiques n'auront alors plus qu'une solution. Manifester.
Et du côté de la contestation, le Parti Socialiste annonce qu'il va saisir le Conseil constitutionnel avant la journée de mobilisation de demain, la 7e nouvelle fin de grève dans une raffinerie. Les salariés de Petroplus à Petit-Couronne en Seine-Maritime ont voté la reprise du travail. Après celle du mois d'août, la nouvelle hausse de 3% pour l'électricité a été confirmée ce matin par le ministre du Budget, François Baroin. Une augmentation largement contestée dans l'opposition. François Bayrou estime que c'est un abus pour le Parti communiste. Elle est scandaleuse. 5000 personnes aux obsèques de Georges Frêche ce matin à Montpellier. Le président de la région Languedoc-Roussillon et ancien député maire de la ville, dont le cercueil a été applaudi à son arrivée sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre. Parmi les personnalités présentes, le numéro 2 du PS, Harlem Désir, et de nombreux élus de la région, ainsi que l'acteur Gérard Depardieu. Du foot avec les 4 derniers 8e de finale de la Coupe de la Ligue, Lyon-PSG à 20h45. Avant ça, Guingamp-Marseille en fin d'après-midi à 17h, Lille-Caen 18h45 et Auxerre-Bastia à partir de 20h.
Merci Emmanuel Collardet. Prochain rendez-vous avec l'info à 15h.
France Bleu Pays de Savoie. En bleu, Sylvia Depierre.
Bienvenue dans la vie en bleu de ce mercredi 27 octobre. Je suis ravie de vous retrouver. Notre invitée cet après-midi est Martine Alix Copier. Elle a été professeure d'art plastique, guide conférencière des monuments historiques de Conflans. Elle est passionnée par les sociétés secrètes. Thème de son dernier ouvrage, Le trésor de la Nord, inspiré de faits réels. Ça se passe au 19e siècle, en partie en Savoie. On va le découvrir mieux, cet ouvrage qu'elle a coécrit avec Jean-Michel Thibault et qui est paru aux éditions Presse de la Cité. Martine Alix Copier est née à Modane. Elle habite Albertville. Elle écrit et dessine depuis toujours. Après avoir fait les beaux-arts, elle a effectivement enseigné les arts plastiques pendant 10 ans. Elle a exposé ses œuvres. Elle s'est occupée d'une galerie d'art à Annecy. Elle a illustré des livres, des BD. Et elle écrit pour elle, mais aussi pour les autres. C'est ce qu'elle est venue, entre autres, nous raconter. Martine Alix Copier est avec nous jusqu'à 15h. Bonjour Martine Alix Copier.
Bonjour, et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et bien sûr, plus particulièrement, les membres de ma famille et mes amis.
Ben voilà, qui sont, j'imagine, rivés à leur poste de radio cet après-midi. Alors pour vous, quand on regarde un petit peu votre parcours, pour vous, Martine, on a l'impression que le dessin et l'écriture sont nécessaires à votre équilibre. C'est comme ça que vous vous réalisez.
Ils sont intimement liés. L'un ou l'autre sont des prolongements de ce que je suis. J'ai même l'impression d'avoir toujours dessiné et écrit avant même d'apprendre à marcher. C'est un moyen d'expression qui est inné.
Qui est vital aussi pour vous.
Qui est vital parce que j'ai un parcours un petit peu difficile dans mon enfance. Ayant été très malade, je n'ai pas pu être scolarisée comme les autres enfants.
Vous avez souffert de la tuberculose.
J'étais en sanatorium. Ce qui donne une tournure d'esprit un petit peu particulière et qui permet de développer un monde imaginaire hors du commun. Où j'ai appris notamment à lire, à écrire un peu phonétiquement. Voilà, et puis.
Et ce qui a fait votre force aussi pour tout votre parcours.
Une grande force, et puis qui m'a permis d'observer la vie, les autres. Voilà.
Et ben on va pouvoir détailler tout ça, votre parcours et puis cet ouvrage que vous avez coécrit avec Jean-Michel Thibault, que nous accueillerons aussi tout à l'heure sur cette antenne. Vous êtes la bienvenue, Martine Alix Copier. Et puis bien sûr, vous qui nous écoutez, vous connaissez le principe de cette émission. Si vous voulez réagir au cours de l'émission, vous pourrez le faire et nous joindre dès 14h30 sur la ligne bleue. Sachez que nous vous offrirons aussi l'ouvrage de Martine Alix Copier. Donc si ça vous intéresse, si le sujet vous plaît, bien faites-vous une idée d'ici 14h30 et ensuite vous nous appelez 0820 20 1992.
Les plus belles chansons françaises sont sur France Bleu, Pays de Savoie.
Il suffirait simplement qu'il m'appelle, d'où vient ma vie, certainement, pas du ciel. So sens tous les jours. Comment briser le silence qui l'entoure? Aussi vrai que de loin je lui parle, j'apprends tout seul à faire mes armes. Aussi vrai que j'arrête pas d'y penser, si seulement je pouvais lui manquer. Est-ce qu'il va me faire un signe? Manquer d'amour n'est pas un crime. J'ai qu'une prière à lui adresser, si seulement je pouvais.
Sera à Aix-les-Bains au concert le 16 novembre prochain. C'était Calogero sur France Bleu Pays de Savoie. Si seulement je pouvais lui manquer.
France Bleu Pays de Savoie, Sylvia Depierre.
Cet après-midi dans La Vie en Bleu, je vous propose de découvrir Martine Alix Copier et son ouvrage qu'elle a coécrit avec Jean-Michel Thibault, édité aux Presses de la Cité. Alors, ce roman s'appelle Le Trésor de la Nord, Martine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie ce titre? Qu'est-ce que la Nord? Qui est la Nord, plutôt?
Alors, la Nord, d'abord, c'est le diminutif d'Éléonore, parce qu'en Savoie, traditionnellement, on donne des diminutifs. Par exemple, Angélique devient l'Angélique, Amélie, la Mélie. Et Éléonore, naturellement, devient la Nord. Et la Nord est un personnage librement inspiré d'un membre de ma famille qui était mon arrière-grand-mère, qui pratiquait, on peut le dire, ce qu'on peut appeler... On peut dire qu'elle était jeteuse de sorts, mais elle ne faisait pas que ça, bien sûr. Mais dans ce terroir un petit peu sombre de la Savoie, fin 19e siècle et début 20e, on utilisait beaucoup ce qu'on appelait le grand Albert, on se jetait des sorts. Donc c'est librement inspiré d'elle. Et la Nord était aussi une femme qui vivait à Notre-Dame-des-Millières, mais pas tout à fait à la même époque. Donc c'est un mélange, si vous
voulez. Un
mélange de plusieurs personnages. Mais cette histoire est directement inspirée d'un terroir local très réel où ont vécu certains membres de ma famille.
Donc ça, ce sont des histoires qui ont bercé votre enfance, même l'histoire de votre grand-mère qui jetait des sorts. Ça, c'est qui vous ont raconté. C'est la famille qui vous a raconté.
Tout à fait,
qui vous
parce que ma mère, qui est aussi écrivain sous le nom de Lou Gontier, peut-être que certains ont lu des ouvrages, qui était institutrice, notamment dans les belles villes et à Beaufort, m'a raconté avoir vécu sur ce terroir, mais dans les années 20, quand elle était petite fille, et cette arrière-grand-mère était en fait sa grand-mère à elle. Et elle m'a raconté beaucoup de choses qui se sont passées à cette époque. Moi, j'ai interrogé aussi des personnes de qui avaient encore des souvenirs. Et puis, bon, j'ai fait un gros travail de documentation.
D'autant que ça vous fascine, hein, tout ça.
Ça me fascine, ouais. tout ce pays de l'ombre.
Tout ce qui est secret.
Plein de ouais. légendes, de secrets, de choses terribles et en même temps de solidarité et d'entraide.
Alors, on va revenir sur l'histoire de ce roman, Le Trésor de la Nord, Martine-Alix Copier. Est-ce que vous pouvez nous présenter Julien Fabrègue, qui rêve de trouver ce fameux trésor de la Nord, le trésor des Burgondes?
Alors, Julien Fabrègue, bon, Jean-Michel Thibault pour en parler.
On l'aura tout à l'heure en ligne.
Autant que moi, ce n'est mieux. C'est un personnage brignolais, donc provençal, qui lui est issu d'une famille, on peut dire aristocrate, dans une vieille bastide, beaucoup de beaux objets. C'est un lettré qui a beaucoup de documents. Alors, c'est un personnage qui a existé, naturellement, pas sous ce patronyme-là.
Mais qui a existé.
Qui a existé et qui avait une documentation extraordinaire et qui cherchait vraisemblablement d'abord des trésors égyptiens, parce que c'était un passionné d'Égypte, mais aussi du trésor des Burgondes. Or, les Burgondes, c'est un peuple fédéré par les Romains qui a été envoyé en Savoie. Enfin, la Savoie d'aujourd'hui s'appelait autrefois la Sapodia, qui englobait aussi bien la Bourgogne, le Jura, la Haute-Savoie, qui allait aussi jusqu'à la Durance. Et donc, ces Burgondes sont venus s'installer avec un trésor fabuleux dont on parle dans la chanson des Nibelungen, ce qu'on appelle aussi la chanson de Siegfried. Pour les amateurs, enfin, ceux qui connaissent la légende de Siegfried. Et voilà, donc ces Burgondes avaient ce fabuleux trésor, 144 chariots d'or, qui auraient disparu soit dans le Rhin, comme la légende le dit, ce qui fait que Himmler et ses agents l'ont beaucoup cherché, soit il aurait servi à s'établir en Sapodia, donc dans les alentours de la Haute-Savoie. Et ce Julien Fabrègue avait en sa possession un très ancien document des Missi Dominici de Charlemagne. Donc ça, là, ça nous ramène à l'an 800, qui était question de, disons, de faire des recherches aux alentours d'Ad Publicanos. Ad Publicanos, c'était Albertville, au temps des Romains. C'était le péage, le 40e des Gaules. Et bon, je ne vais pas embrouiller non plus les auditeurs, et les lecteurs, mais il faut simplement savoir que l'ancienne voie romaine, Milan-Vienne, passait obligatoirement par Albertville, qui s'appelait Ad Publicanos, puis Conflans.
D'accord.
Et donc, tous les marchands chargés d'or, tous les pèlerins transitaient par là. Et les Burgondes étaient chargés de la surveillance des frontières.
Et donc, c'est pour ça que Julien Fabrègue va se retrouver.
Alors, Julien Fabrègue,
sur nos terres.
Il a cherché tout ça et il va être confronté à ce terroir de Notre-Dame-des-Millières et de l'Albertville de 1892, où il va être complètement ahuri de découvrir ce monde avec ses superstitions et les goitreux de l'époque aussi. C'est quelque chose. Les gens du village ont redécouvert ça, que leurs ascendants avaient des goitres à cause du manque d'iode, de l'insalubrité. Et d'autres facteurs. Il y avait eu une enquête, d'ailleurs, de Monseigneur Billet au XIXe siècle pour savoir pourquoi il y avait tant de goitreux entre notamment Albertville et Sainte-Hélène-sur-Isère.
Et c'était dû à ça, alors ?
Ils n'ont jamais vraiment su les eaux séléniteuses, manque d'hygiène, iode.
D'accord. Alors, ce qui est intéressant dans votre ouvrage, non seulement on se laisse embarquer, évidemment, on part dans une autre époque, on découvre aussi un peu l'histoire de notre région, le monde rural, les croyances, les sociétés secrètes, il y a tout. Mais c'est surtout que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de faits réels. C'est-à-dire, il y a plein d'éléments qui sont vrais, sur lesquels vous vous êtes basé, et puis ensuite, après, vous avez romancé, mais il y a plein de choses vraies.
Tout à fait.
Que ce soit l'histoire, que ce soit les croyances de l'époque, les légendes de l'époque, les sociétés secrètes.
Alors, déjà, on fait revivre aussi l'Albertville de 1892. Qui était une ville assez mal famée, une ville de garnison qui n'a rien à voir avec ce qu'elle est devenue, fort heureusement d'ailleurs, mais bon, c'était quand même très vivant, très, très haut en couleur. Et puis, il y a aussi un trésor des Autrichiens, un deuxième trésor, puisqu'un trésor en cache un autre. Il y a eu en 1815 une grosse bataille à Albertville qui s'appelait l'hôpital sous Conflans, où la coalition austro-hongroise a livré sa dernière bataille contre Bugeaud, qui lui était au service de Napoléon pendant la campagne des 100 jours. Les Français qui avaient perdu à Waterloo la semaine précédente ont quand même livré un combat pour l'honneur, ont vaincu les Autrichiens. Ces mêmes Autrichiens qui avaient pillé toute la Tarentaise et qui avaient un butin phénoménal se sont égayés, dispersés dans toutes les montagnes environnantes pour rentrer chez eux. et on aurait déposé aussi leur butin à Notre-Dame des Millières. Donc ça fait quand même deux coïncidences.
Quand même pas mal de trésors,
deux coïncidences, ouais. Ce qui fait que les sociétés secrètes donc se retrouvent à ce niveau-là, dans la mesure où la société secrète des frères asiatiques qu'on évoque, qui était une société secrète liée à la ville de Vienne en Autriche, donc se retrouve liée à une équipe d'Autrichiens qui revient sur Notre-Dame des Millières et Albertville chercher
ce fameux trésor,
à la fois le trésor des Burgondes et à la fois le butin de leur père.
On va y revenir, Martine Alix Copier. On va revenir sur cette histoire qui est, vous l'aurez compris, qui est très dense, mais qui est très riche également.
Qui est à tiroir et à arcane, vraiment.
On va y revenir effectivement dans quelques instants, et puis on accueillera aussi Jean-Michel Thibault. On se retrouve dans quelques minutes.
Serait sur la joue, n'apprécierait pas la musique. Pour tout le reste, il saurait tout. Je tiendrais une place unique dans sa vie, je lui dirais vous. Je l'appellerais quelquefois, lassé de voir passer les anges. Je lui dirais n'importe quoi, je lui dirais je vous dérange. Alors il sourirait de moi. On s'aimerait tout bas, en amis, à distance. On s'aimerait en silence, comme on joue, comme on danse, comme on pleure quelquefois, quand on pense à personne et que personne ne pense qu'on a ce chagrin-là. On s'aimerait tout bas, en amis, à distance. On s'aimerait. Personne ne pense qu'on a ce chagrin-là, ce chagrin-là. On se fâcherait pour de faux sur un détail plein d'importance. Ça durerait le temps qu'il faut pour qu'on revienne en confidence et j'oublierai tous ses défauts. On se croiserait quelque part. Il aurait le talent de taire ce qu'il est le seul à savoir. On s'aimerait tout bas, en amis, à distance. On s'aimerait en silence, comme on joue, comme on danse, comme on pleure quelquefois, quand on pense à personne et que personne ne pense qu'on a ce chagrin-là. On s'aimerait tout bas, en amis, à distance. On s'aimerait en silence, comme on joue, comme on danse, comme on pleure quelquefois, quand on pense à personne et que personne ne pense qu'on a ce chagrin-là, ce chagrin. On s'aimerait en silence, comme on joue, comme on danse, comme on pleure quelquefois, quand on pense à personne et que personne ne pense qu'on a ce chagrin-là. On s'aimerait tout bas, en amis, à distance. On s'aimerait en silence, comme on joue, comme on danse.
On s'aimerait tout bas, c'est le nouveau titre de Lara Fabian, 14h20.
14h-17h, La vie en bleu sur France Bleu Pays de Savoie, Sylvia Depierre.
Martine Alix Copier est notre invitée cet après-midi pour nous parler de son parcours et puis évidemment de son actualité. Ce dernier roman qui vient de sortir, qu'elle a coécrit avec Jean-Michel Thibault, qui s'appelle Le Trésor de la Nord, édité aux Presses de la Cité. Alors, Martine Alix Copier, certains critiques disent que c'est le Da Vinci Code savoyard. Quelle réaction par rapport à cette critique?
Bon, ça
il y a le côté positif,
c'est côté flatteur, positif.
Si vous en vendez autant, je vous le souhaite.
Entre parenthèses, Dan Brown aurait dit aux États-Unis qu'il se serait inspiré de plusieurs livres, dont celui de Jean-Michel Thibault sur L'Ordre du Diable, Le Secret de la Bessonnière. D'ailleurs, un des personnages du Da Vinci Code s'appelle Saunière, le directeur du Louvre.
Effectivement, ouais.
Voilà, parce que Jean-Michel est spécialiste de l'énigme de Reine de Château. Et du trésor de ce fameux abbé Saunière. Bon, ça serait trop long de parler de ça, mais c'est une énigme absolument époustouflante.
Donc Dan Brown se serait inspiré
Dan Brown s'est inspiré, entre autres, d'un des ouvrages de Jean-Michel, plus aussi d'autres personnes.
Vous l'avez lu? Il vous a plu, Da Vinci Code?
Je l'ai trouvé. Je vous dirais, bon, il est assez passionnant par le découpage. Bon, oui. C'est une équipe aussi qui travaille pour Dan Brown, qui sait ménager le suspense. Mais je l'ai trouvé très sommaire quant aux énigmes.
Oui.
Parfois, c'est vraiment simpliste. Bon, c'est un peu.
Bon, en tout cas,
un petit peu léger,
on souhaite le même succès. Et
oui,
une adaptation cinématographique, ce serait le rêve, parce qu'il y a matière avec le vôtre. Alors, on va accueillir Jean-Michel Thibault, qui est le co-auteur de cet ouvrage et dont on vient de citer un autre ouvrage avec Le Trésor de la Bessonnière. Jean-Michel Thibault, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi en direct pour nous parler de ce très beau roman historique qui mêle, on le disait tout à l'heure, hein, tous les ingrédients nécessaires à une belle histoire, parce que non seulement il y a le côté mystère, hein, avec les légendes, les sociétés secrètes, les croyances, il y a l'amour aussi, on l'a pas dit, mais entre Julien et Amélie, il y a le monde rural qui plaît, il y a toute l'histoire, les facteurs historiques. Vous, Jean-Michel Thibault, vous avez beaucoup d'ouvrages à votre actif. Quel recul vous avez sur celui-là que vous avez coécrit en plus, qui n'est pas forcément un exercice facile?
J'ai peu de recul parce que je suis un homme plutôt entier et viscéral, donc j'ai jamais trop de recul par rapport à ce que j'écris. Et pour faire un parallèle en tout cas avec, disons, la vie de Martine, c'est vrai que l'arrière-grand-mère de Martine pratiquait plus ou moins la sorcellerie, mais moi j'ai été élevé par les sorcières. Donc,
carrément.
Oui, par les sorcières corses, puisque ma mère et ma grand-mère étaient bergères, étaient illettrées. Et en quelque sorte, l'écriture pour moi, ça a été une revanche sur la vie, quoi. C'était mes ancêtres étaient illettrés, donc moi je vais écrire. En gros, c'est ça. Mais pour vous donner un ordre d'idée, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai porté des petits paquets de sel sur moi, des petits coussinets de sel, pour empêcher que les sorcières ennemies de ma famille corse puissent m'envoûter, parce que avant de m'envoûter, elles devaient compter le nombre de grains de sel qu'il y avait dans les coussinets. Donc j'avais le temps de passer, de m'éloigner de la malédiction, mais à 18 ans, j'ai dit, bon, ça va.
Vous avez arrêté. Vous portez plus de sel sur vous, Jean-Michel. D'accord. Comment s'est passée la collaboration avec Martine Alix Copier? Parce que j'imagine que d'écrire un roman à deux, c'est pas évident. Il faut que chacun trouve sa place, il faut que chacun amène à l'autre.
Oui, c'est ça. Bon, déjà, je suis un petit peu dur, hein, d'ailleurs, elle pourra vous le dire. Moi, j'ai été assez dur avec elle. Par moments, je pense même qu'elle a été au bord des larmes. C'est vrai qu'il faut s'adapter, il faut se renvoyer les personnages, mais en même temps, c'est formidable parce qu'il y a une espèce d'émulation, on veut toujours faire mieux que l'autre, on se lance des idées, on se balance des personnages entre les pattes et on se dit maintenant un petit peu, débrouille-toi. En gros, c'est ça, donc il faut tout inventer. Et en même temps, on a des imaginations galopantes qui coïncident parce qu'on a en plus les mêmes intérêts, l'Égypte antique, la sorcellerie, les sociétés secrètes, les trésors. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. Il fallait aussi qu'il y ait une écriture un petit peu équivalente. Et bon, là, ça a été le plus dur, quoi, l'adaptation au rythme. Je pense que Martine Alix a un rythme un petit peu plus lent. Moi, je suis plus rapide. Et donc, il faut s'adapter. Ben, il faut le prendre sur soi. Et je pense que notre prochain roman sera encore mieux réussi sur le plan de l'écriture.
Ah, c'est que ça se passe bien si vous envisagez le deuxième, hein.
Ah oui, le deuxième. Ah oui, on signe le contrat la semaine prochaine.
Ah, bah, c'est parfait. On aura l'occasion d'en reparler. Martine Alix, c'est vrai qu'il est difficile, Jean-Michel, il est exigeant.
Oui, il est exigeant.
Il met la barre haute.
Il met la barre très haut, et puis c'est surtout une sacrée personnalité de l'écriture, Jean-Michel, donc j'étais très très fière de collaborer, et c'était aussi un honneur, et je ne voulais pas non plus le décevoir.
Vous vous êtes rencontrés comment, tous les deux?
Alors on s'est croisés il y a une dizaine d'années sur le salon du livre d'Hermillon en Maurienne. Lui, il a été parrain de ce salon. Moi, j'ai concouru pour le prix du roman historique Rosine Perrier, pour un ouvrage qui s'appelait Bleu Horizon. Et ensuite, on s'est recroisés sur des salons du livre du Var, puisqu'il a été le fondateur des Nocturnes littéraires dans le Var. Et puis, de fil en aiguille...
Vos points communs, en fait, que vous avez envie d'écrire ensemble.
On a eu envie d'écrire. Moi, j'ai apporté, là, pour compléter ce que dit Jean-Michel, j'ai apporté peut-être ma touche féminine, peut-être plus lente, plus fouillée, plus introvertie, donc du personnage féminin d'Amélie, avec ses états d'âme. Lui, il a apporté le côté plus dynamique, comme il disait, aussi les sociétés secrètes, sa connaissance de tous ces rouages-là. Et puis, ça n'a pas empêché qu'il y ait interpénétration, c'est-à-dire que de temps à autre, moi, j'ai pu aussi aborder des passages plus violents. Je suis capable d'écrire aussi sur la guerre. Je l'ai prouvé en écrivant pour des biographies de personnages militaires, notamment. Mmh. Donc, ça me fait pas peur du tout. De même que Jean-Michel peut aussi entrer dans la peau de ses héroïnes féminines.
En tout cas, une collaboration qui vous a permis d'enrichir au maximum
Absolument.
Cet ouvrage.
Oui.
Je rappelle que ça s'appelle Le Trésor de la Nord. Si vous aimez tout ce qui est aventure, mystère, recherche, quête de trésors, société secrète, et puis en plus, comme je disais, l'avantage c'est qu'on est sur des faits réels, ça se passe entre autres dans notre région. Vous allez forcément adorer les personnages de Julien et Amélie aussi qui sont très riches. Vous pouvez nous joindre sur la ligne bleue 0820 20 1992 pour découvrir cet ouvrage. Jean-Michel Thibault, merci beaucoup.
Merci.
D'avoir été avec nous pendant ces quelques instants. Juste une petite question, Jean-Michel. Est-ce que du coup vous avez jeté un œil sur ce que fait Martine Alix Copier? Je voulais vous demander votre avis sur ses dessins.
Ah ben ça, oui, non seulement je connais ses dessins, mais je l'ai vu dessiner et je trouve qu'elle a un talent fou, c'est-à-dire qu'elle est capable en quelques coups de crayon, parce que moi je trouve que sur le crayon de couleur, elle est fantastique. En quelques coups de crayon, elle est capable de retracer la vie d'un marché, mais à l'essentiel, c'est-à-dire en même temps il y a toute une symbolique des couleurs. Je crois que c'est une symboliste, une surréaliste symboliste. Voilà, moi, ce que je pense un petit peu des dessins de Martine, qui à première vue comme ça paraissent tout simples, mais en fait, il y a des codes et des clés dans les couleurs et dans les formes.
Jean-Michel Thibault, merci en tout cas d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes. Vous restez bien sûr à l'écoute de notre émission. On compte sur vous jusqu'à 15h. Au revoir, Jean-Michel.
Au revoir.
Bonjour, c'est Serge Carbonel.
Chaque jour, à partir de 10h, France Bleu Pays de Savoie passe en cuisine et vous propose son assiette savoyarde.
Nous, à la base, on est des amoureux du produit.
Des producteurs aux restaurateurs, en passant par vos idées de recettes, partageons ensemble de bons petits plats.
On mélange le tout et on met au four. Thermostat 180-200.
L'assiette savoyarde, de 10h à 11h sur France Bleu Pays de Savoie, avec le reblochon, fromage AOP de Savoie.
À demain.
Et un petit péché mignon.
Avec France Bleu Pays de Savoie, gagnez sur notre site internet des cabriolets sans permis et des séjours d'une semaine de ski pour 4 personnes avec hébergement et forfait au Grand Bornand ou au Menuir. Pour jouer, rendez-vous sur bleupaysdesavoie.com.
I will.
fight is holy, I'm a Gideon.
One love.
So when the man comes, there will be no, no doom.
One song.
Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah.
One Love, Bob Marley à l'instant sur France Bleu Pays de Savoie, 14h31.
La vie en bleu, Sylvia Depierre.
Martine Alix Copier, notre invitée cet après-midi, est venue nous parler de son parcours et puis de son dernier ouvrage qu'elle a coécrit avec Jean-Michel Thibault, qui s'appelle Le Trésor de la Nord, édité aux Presses de la Cité. J'imagine, Martine Alix Copier, que bon, déjà, il y a toutes vos connaissances déjà à la base et vos passions, hein. Celle de Jean-Michel Thibault, vous avez travaillé ensemble et en plus ça a nécessité des recherches, cet ouvrage. C'est un travail de combien de temps en amont pour réaliser un roman comme celui-ci?
Le roman a été écrit sur environ 9 mois, mais il a demandé en amont beaucoup de travail. Ça fait des années que je recueille la mémoire des personnes âgées en Savoie, pas seulement sur ce terroir de Notre-Dame-des-Millières, mais aussi dans d'autres hautes vallées de montagne, parce qu'il y a quand même un tronc commun. Et puis, comme j'étais diplômée des monuments historiques et guide conférencière de Conflans, j'avais appris avec l'abbé Udry dans les années, début des années 80, j'avais appris beaucoup de choses aussi.
Alors, qui était cet abbé Udry?
L'abbé Udry, qui était président des Amis du Vieux Conflans, qui était un historien, un érudit. Il a participé à de nombreux ouvrages et participé à faire connaître vraiment ce qu'est la Savoie au point de vue archéologique, religieux, ou autre, qui était vraiment un passionné. Donc, j'ai eu l'honneur de le connaître. Et tout en faisant mes études aux Beaux-Arts, donc j'avais à la fois un regard sur l'architecture de la Savoie, un regard sur les coutumes, et puis après par mon amour du dessin, en faisant des croquis sur place, j'ai appris aussi beaucoup de choses. Mon œil a beaucoup observé, parce que quand on écrit, on a aussi un œil de peintre. Enfin, en ce qui me concerne, je fonctionne beaucoup.
Quand vous écrivez, vous avez les images.
Moi, j'ai les images. C'est pour ça que souvent on me dit, tiens, ça pourrait faire un film, ou tiens, je vois les scènes, parce que je n'hésite pas à introduire les couleurs, les matières, tout ce qui peut créer le tableau visuel.
Et d'où vous vient cette passion pour les sociétés secrètes aussi, pour ce thème-là qui est passionnant? Alors, tout le monde a envie d'en savoir un peu plus.
Je suis passionnée d'ésotérisme, d'occultisme, sous toutes ses formes. Et bien sûr, des sociétés secrètes qui ont aussi connaissance de certains arcanes. Donc, je me suis intéressée bien aux Templiers autrefois, aux Rose-Croix, aux francs-maçons, à toute société secrète qui gravite, notamment à Rennes-le-Château, puisqu'on revient toujours sur ce lieu extraordinaire, hein, bon, dont on parlera pas, on en parlera peut-être une autre fois. Mais dans le cas de notre roman, on a fait appel à ce qu'on appelle les Frères Asiatiques, qui est une société très peu connue, dont on a peu de renseignements, mais
qui existe encore.
Non, qui n'existe plus. Enfin, qui n'existe plus. Je n'en sais rien. Je ne suis pas dans le sein des saints. Mais les Frères Asiatiques, qu'on appelle aussi fondateurs et mandatés de cette église inconnue d'Asie. C'est une société du XVIIIe siècle, donc qui est ancienne parce qu'elle est née en 1748. Elle a disparu officiellement, disons en 1810, mais officieusement a continué, notamment au sein de la cour des Habsbourg à Vienne, avec très certainement des manipulations sous-jacentes par rapport au pouvoir, hein, de cette dynastie des Habsbourg. Mais avec aussi tout un travail sur l'alchimie et la cabale. Voilà, donc on a utilisé cette société secrète dans le cadre du roman par rapport au trésor des Burgondes, puisque Il y a un lien aussi entre les Burgondes et les recherches effectuées par les kabbalistes à Vienne. Voilà.
Alors c'est vrai, on remarque, hein, c'est vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, un roman à tiroir. Il y a plein d'éléments qui se recoupent. Du vrai, du roman, évidemment, parce qu'il faut romancer, parce qu'il faut être pris, et c'est le cas, on est happé par votre histoire. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent encore nous joindre s'ils le souhaitent et s'ils veulent intervenir dans cette émission, si eux aussi ces sujets les passionnent, 0820 20 1992. Et puis je voudrais dans quelques instants qu'on aborde une autre facette de votre personnalité, Martine, même si tout est lié, on l'a dit tout à l'heure, j'aimerais qu'on parle aussi de dessin et de peinture. On y revient dans quelques instants, si vous le voulez bien, juste après Florent Pagny et Savoir Aimer.
Les plus belles chansons françaises sont sur France Bleu, Pays de Savoie.
Inconnu qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer, sans rien attendre en retour, ni égard, ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. Goûter à ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus. Se voir y croire, pour tromper la peur du vide, ancrer comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et s'en aller. Savoir souffrir, silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir, se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et s'en aller. Apprendre à rêver, à rêver pour deux. En fermant les yeux et savoir donner, donner sans rature ni demi-mesure, apprendre à rester, vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer, s'en aller.
Savoir aimer, c'était Florent Pagny à l'instant sur France Bleu Pays de Savoie. On découvre le parcours et la personnalité de Martine Alix Copier cet après-midi, qui habite Albertville, qui écrit, qui dessine, comme elle nous le disait tout à l'heure. C'est un peu vital pour elle et depuis toujours, c'est sa manière de s'exprimer. Qu'est-ce que vous préférez peindre? Ça a commencé par quoi? Le dessin, le crayon ou rapidement la peinture?
Toutes les techniques y sont passées, on peut dire, parce que j'ai été aussi graveur. J'ai fait des eaux-fortes, j'ai travaillé au burin, j'ai été photographe. J'ai eu la chance, lorsque j'étais aux Beaux-Arts de Lyon, de pouvoir accéder à des ateliers, des enseignants hors pair, avec tout le matériel possible et imaginable. Donc j'ai essayé différentes techniques selon des étapes de vie. Ça dépendait, je pouvais être très figurative et après être beaucoup plus abstraite. Mais je me suis toujours intéressée au portrait, notamment le portrait féminin. Je suis une excellente portraitiste. D'après ce que me renvoient les autres, parce que je peux capter assez rapidement des traits physiques. Et je me suis vouée au crayon de couleur depuis peu de temps, parce que...
C'est pratique à transporter. Hein.
Voilà, notamment lorsque j'étais en Égypte, j'avais pas envie forcément d'emmener une bouteille d'eau et des pinceaux, de la peinture. Et ça me permet de travailler rapidement. Et aussi, pourquoi pas, d'offrir un petit dessin. Ça m'est arrivé à une famille égyptienne. J'avais pas d'appareil photo. De toute façon, je pouvais pas leur donner la photo, leur faire un petit croquis. Et ils étaient très sensibles à ça. Et ça permet tout au long des chemins que j'emprunte de croiser des personnes.
Ça, c'est une autre de vos passions, l'Égypte. Hein.
Ah, c'est une grande ouais. passion, l'Égypte, voilà. Et donc, pour résumer, eh bien j'ai fait pas mal d'expositions, que ce soit des grandes toiles ou des petits formats.
Vous avez tenu une galerie d'art aussi.
J'ai tenu une galerie d'art Annecy qui s'appelait Excalibur, voilà, avec une vingtaine d'exposants de la région qui représentaient à peu près tous les métiers d'artisanat d'art ou artistique.
Vous exposez toujours?
Je n'expose plus parce que il a bien fallu quand même choisir. Je peux pas avoir
partout à
trop
la fois,
de vie ouais. en même temps. Mmh. Mais ce n'est pas exclu que je m'y remette un jour.
Ouais.
Voilà, pour le plaisir. Mais je m'occupe quand même d'artistes. J'ai une amie, Marianne Raffestin, sur Grenoble, de temps en temps. Mais je suis un peu ce qu'elle fait.
Comment vous vous sentez quand vous peignez?
Alors, quand je peins, c'est miraculeux parce que j'entre dans un état second et c'est un lavage de cerveau total.
Pensez à rien.
Je ne pense à rien, je ne pense qu'au plaisir de faire ce que je fais. Je suis à l'instant présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est comme un œil sans cerveau, quelque part. Et ma main me guide, même si j'ai une idée très déterminée sur ce que je veux accomplir.
Quand vous écrivez, c'est un peu pareil? Vous retrouvez un peu la même chose?
C'est un petit peu pareil, mais il y a quand même des contraintes. Bon, surtout à ce niveau d'écriture, là, on est quand même dans une édition nationale. Donc, il y a quand même certaines contraintes. Ce n'est pas comme quand on écrit de la poésie ou de l'écriture automatique pour soi. Voilà, donc c'est une autre façon de faire.
Alors vous avez déjà pas mal d'ouvrages à votre actif. Là c'est le premier d'envergure nationale, mais il y en a eu pas mal d'autres avant. Alors des écrits pour vous, et puis des écrits aussi pour d'autres, où vous êtes arrivé d'écrire les biographies d'autres personnes.
Oui, j'ai commencé en 92 avec Schmil. Schmil, c'était Émile Vasserol, dit Schmil, juif polonais émigré.
C'est lui qui est venu vous chercher, c'est lui.
Alors il est venu me chercher en me disant, voilà, tu vas écrire mon bouquin parce que je ne suis pas capable de le faire. Et puis il avait peur d'être un petit peu ridicule par rapport à sa famille, puisque il lisait pas spécialement, mais il m'a raconté sur plusieurs mois toute sa vie. C'est un homme extraordinaire. D'optimisme, c'était même désarmant cette manière de traverser la guerre au milieu des persécutions de la Shoah, etc. Et un homme qui a toujours gardé un optimisme viscéral. Et puis plein d'humour. Donc j'ai écrit un véritable polar sur sa vie avec ses mots, parce que j'ai la faculté d'entrer dans la peau des autres. Si j'écrivais pour lui, c'était comme si j'écrivais pour le gamin de la rue qui a fait fortune, puisqu'il est devenu, on peut dire, milliardaire, hein, qu'il a acheté des œuvres d'art, il a fondé les stocks américains à Grenoble. Suite à ça, un autre personnage est intervenu dans ma vie, le général Raymond Koch, qui lui est vraiment un personnage extraordinaire, très lettré, très cultivé, qui m'a demandé aussi d'écrire ses mémoires avec ses mots et ce qu'il est. C'est-à-dire que je n'allais pas écrire comme dans un style polar. Et j'ai dû utiliser déjà des éléments qu'il avait écrits lui, j'ai utilisé ses archives.
C'est difficile ça d'écrire pour quelqu'un d'autre, de se mettre à la place de quelqu'un
d'autre ?
Pour
moi ce n'est pas du tout difficile parce que j'adore ça, j'ai un côté très voyeur. Pour écrire pour les autres, il faut être voyeur, il faut aimer les histoires, il faut aimer prêter son oreille, prêter sa plume. Il faut rabattre un petit peu son ego aussi, hein, parce que bon, je ne suis pas nègre dans le sens où mon nom apparaît quand même sur la couverture. Hein, on dit raconté par Martine Copier, par exemple, ou écrit avec. Mais c'est vrai que là aussi, il y a des contraintes parce que je peux pas me permettre n'importe quoi. Bon, dans le cas d'Émile Vasserolles, j'ai pu aborder sa vie affective très riche. Parce qu'il m'y autorisait. Dans le cas du général Raymond Coche, c'était beaucoup plus pudique. C'est un autre monde. Donc.
Et quand vous écrivez sur des personnages fictifs, même s'ils sont inspirés de faits réels, comme c'est le cas dans l'ouvrage Le Trésor de la Nord, vous êtes ces personnages. Quand vous écrivez sur Amélie, vous êtes
Amélie. Absolument, ouais. Mais je ne suis pas.
Et vous mettez de vous dans Amélie.
Mais bien sûr, voilà. je ne suis pas que le personnage féminin, je suis
tous
les personnages, masculins aussi. Oui. Parce que dans chacun de nous, de toute façon, il y a une dimension masculine, une dimension féminine. C'est Jung, il en a beaucoup parlé. Et je suis un peu le baron von Schubert machiavélique, même si non, bien sûr, je n'ai pas son envergure ni sa méchanceté. Je suis aussi la rebelle. Et surtout la rebelle Amélie qui refuse de rester dans son village parce que, à cette époque, la condition de la vie de la femme savoyarde était terrible. On était mariés contre son gré pour arranger les propriétés, pour. Arranger les biens, pour arranger les familles.
Si vous voulez découvrir cet ouvrage qui s'appelle Le Trésor de la Nord, je vous y invite vraiment. D'autant que même s'il y a plein d'éléments, vous l'aurez compris, ça reste très facile d'accès quand même, hein, pour un public très large. Le livre de Martine Alix Copier et Jean-Michel Thibault, Le Trésor de la Nord.
Nouvelle division, nouvelles ambitions pour l'ETG Football Club. Avec France Bleu Pays de Savoie, devenez supporter d'Evian et assistez au prochain match de Ligue 2.
Et le prochain match, c'est ce vendredi. L'Evian Thonon Gaillard FC joue à l'extérieur contre Istres. Un match à suivre sur bleupaysdesavoie.com dès 20h.
Merci, c'était deux filles à l'instant, 14h51.
Jusqu'à 17h. La vie en bleu sur France Bleu Pays de Savoie, Sylvia Depierre.
Et Martine Alix Copier que vous découvrez cet après-midi avec notamment la sortie de son dernier roman qu'elle a coécrit avec Jean-Michel Thibault, Le Trésor de la Nord. Alors, plein de passion, Martine, nous aurait fallu plus d'une heure d'émission pour raconter un petit peu tout ce qui vous intéresse, tout ce qui vous passionne dans la vie. On en a dit quelques mots et il y a quelques instants, j'aimerais qu'on y revienne rapidement, c'est l'Égypte. D'où ça vient cette passion pour l'Égypte?
Alors, j'ai toujours aimé ce pays, je l'ai découvert bien évidemment de par mes études sous l'angle de l'architecture pour commencer, et puis des fresques, enfin tout ce côté esthétique et symbolique. Ensuite, je l'ai appréhendé sous l'angle des rituels de l'Égypte ancienne à travers certains auteurs ou certains animateurs de stage. Je l'ai découvert aussi avec Jean-Michel, puisqu'il a enseigné les civilisations antiques à Paris, notamment l'Égypte. Il a écrit pas mal d'ouvrages sur l'Égypte.
Vous étiez fait pour vous rencontrer quand
donc
même.
Voilà,
hein,
à ce niveau-là. Et puis, j'ai la chance d'avoir une amie qui s'appelle Annelise Peters-Gardet, qui va en Égypte depuis des années, à peu près tous les 3 mois, et qui m'a fait découvrir la vie du petit peuple. Elle m'a fait découvrir les lieux, le désert, bien sûr, bon, les vallées des rois et des reines, mais elle m'a fait découvrir ce que le touriste ne voit pas.
Et c'est ce qui est le plus intéressant.
C'est ce qui est le plus intéressant. Et qui malheureusement va être massacré. Voilà, c'est pour ça que je voulais juste dire un petit mot au nom de tous nos amis égyptiens et au nom des touristes français qui vont se rendre en Égypte, parce qu'on est en train de ceinturer les sites des vallées des rois et des reines et du désert par un mur de 3 mètres de haut pour empêcher eh bien les gens locaux de participer à cette manne financière du tourisme. Donc ils sont expropriés, on casse leur village et tout va être fait pour le touriste, pour accéder directement sur les lieux, ces lieux magiques où on pouvait se promener pendant des heures et découvrir par soi-même.
Vous y allez souvent?
Alors malheureusement non, je peux pas y aller souvent. Les deux dernières fois où j'y suis allée, c'était encore vraiment magnifique.
Et c'est en train de changer.
Et c'est en train de changer. Je me tiens au courant. Donc elle m'explique tout ce qui se passe et le coût de la vie qui est multiplié par deux. Donc la famine qui se profile, l'expropriation des gens. Alors là, je vous parle plus particulièrement de Louxor et des sites, des tombes royales.
Martine Alix Copier, on vous aura entendu. Avant de se quitter, je vous propose le questionnaire de Proust, revu et revisité par France Bleu, si vous le voulez bien, pour encore
avec
mieux vous
plaisir.
Découvrir. Quel est le dernier CD que vous ayez acheté ou téléchargé, Martine? Est-ce que vous écoutez de la musique?
Alors, écoutez, c'était Enya.
Enya. Voilà. Quel est votre livre de chevet du moment?
Serge Brussolo, Le labyrinthe de Pharaon.
Votre plat préféré?
J'en ai tellement de préférés. J'adore la courge.
La courge. Votre plus grande qualité, Martine?
L'écoute et le service d'autrui.
Votre plus gros défaut?
Ah. J'ai besoin d'un joker.
Joker, pas de problème. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis?
Qu'ils me disent la vérité, et surtout qu'ils soient dans l'humour et la joie de vivre.
Votre occupation préférée?
J'en ai plusieurs. Écrire, peindre.
Votre rêve de bonheur?
Personnel ou
personnel? D'autrui.
Que je puisse continuer à écrire et à vivre pour ce que je pense être faite.
Est-ce que vous avez des héros ou héroïnes dans la fiction?
La fiction.
Livre, film. Légende, histoire.
Autrefois, Adèle Blanc-Sec, parce qu'on m'appelait Adèle, c'était l'héroïne de Tardy, parce que toute ma vie était faite de synchronicité, de hasard, d'enquête.
Vos héros, héroïnes dans la vie réelle, s'il y en a?
Ceux qui savent prendre des risques au nom de leur valeur.
Votre couleur préférée?
Le rouge.
Le don de la nature que vous auriez aimé avoir? Même si vous en avez déjà beaucoup.
Le don, c'est plutôt si j'avais eu le temps de continuer à chanter et me former en musique, le chant.
Enfin, à l'état présent de votre esprit, comment vous sentez?
Mais je me sens très, très heureuse d'être là et puis surtout de revenir dans la Savoie, de mes racines profondes avec, avec ce magnifique livre. Voilà, et je suis ravie de participer à cette émission.
On sent qu'il
donc
vous tient
à
cœur.
Je me sens vraiment en pleine forme.
Eh ben, je suis ravie si vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, ça a été le cas. Merci beaucoup. Martine Alix Copier, je rappelle le nom de votre ouvrage, Le Trésor de la Nord. Il est édité aux Presses de la Cité, coécrit avec Jean-Michel Thibault. Merci d'avoir été des nôtres.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir à tous.
France Bleue.